BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Les élections régionales auront lieu le 20 et 27 juin prochain. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales de Normandie viendront répondre à nos questions aujourd'hui. Nous poursuivons avec Laetitia Sanchez, candidate en tête de liste du département de l'Eure sur la liste La Normandie nous rassemble, menée par Mélanie Boulanger, une liste soutenue entre autres par le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, les Radicaux de Gauche et Génération Écologie. Laetitia Sanchez, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 48 ans, vous êtes maire de Saint-Pierre-du-Vouvray depuis 2020 et vous souhaitez une région écologique, sociale et solidaire. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous présenter ?
Alors nous sommes en ce siècle face à une urgence majeure, c'est l'urgence climatique, et elle se décline sous tous les formats de l'urgence écologique pour préserver la biodiversité, la qualité de notre air, de notre eau, l'alimentation de demain. On voit les sécheresses se multiplier, mais ici même dans l'heure des incendies, chaque été se déclare, les nappes d'eau s'assèchent, les cours d'eau une fois débordent, une fois sont à sec. Donc il nous semble qu'on ne peut pas fermer les yeux et ignorer tous ces problèmes. Aujourd'hui, il est vraiment urgent d'y faire face.
Alors on va commencer par les compétences du Conseil régional, le thème des transports. Vous souhaitez la gratuité des transports pour les jeunes. Alors pourquoi cette tranche d'âge de population précisément ?
Les jeunes et nous ajoutons également les personnes souffrant de handicap. Aujourd'hui, il nous semble qu'on a une société qui a été durement éprouvée par la crise, qui a fait ressortir des injustices, des inégalités. Aujourd'hui, les jeunes se sont sentis peut-être oubliés par les politiques publiques. Et si l'on veut le report vers de nouveaux modes de transport, dont le train qui est le plus performant d'un point de vue écologique, la mesure de la gratuité nous semble tout à fait pertinente et le public cible des jeunes également pour permettre de développer d'autres habitudes pour se développer. Placer et de le faire pour se cultiver, pour étudier, pour s'ouvrir au monde, etc.
Alors, vous souhaitez également renforcer l'intermodalité. Alors, l'intermodalité, c'est l'utilisation de plusieurs moyens de transport pour un déplacement, c'est bien ça ?
Oui, exactement. C'est de pouvoir mettre son vélo dans le train ou de trouver un vélo à la gare avec des pistes cyclables sécurisées ou un abri pour le ranger en sécurité. Vous voyez, c'est ça par exemple. Et puis des transports qui vont aussi se mailler entre eux, qu'on puisse prendre un train et avoir sa correspondance avec un autre train, un car, un bus. Il y a vraiment un travail à faire sur cette amélioration du cadencement, du lien entre les différents modes de transport et collectifs et individuels.
Et concernant la ponctualité des transports, vous voulez l'améliorer. Alors comment on fait pour améliorer la ponctualité des transports ? Ça, c'est un sujet national même, pour tous ceux qui prennent le train.
Il y a des négociations avec la SNCF qu'il convient de mener. Il y a des négociations à mener également avec la région voisine très puissante d'Île-de-France. Et il y a effectivement à négocier tout un travail sur les sillons pour pouvoir disposer effectivement de ce cadencement pertinent, d'une amplitude horaire qui aille de très tôt le matin, 5h, jusqu'à tard le soir pour tous les déplacements. Il n'y a pas que des horaires pendulaire 8h, 17h, mais nous avons besoin de transports performants à tous les moments de la journée, du matin très tôt au soir tard, sans trou. Donc là, vraiment, il y a une volonté forte à mettre dans ce dialogue avec les partenaires et aussi marquer notre volonté de réorienter les investissements tout simplement de la région. Aujourd'hui, nous avons une région très artificialisée avec un schéma routier très performant. Pourquoi ajouter encore des financements sur des autoroutes avec des péages qui ne vont pas convenir aux habitants de Normandie ? Nous proposons vraiment de réorienter nos mobilités vers le train en priorité, également le vélo, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les autres transports collectifs.
Alors on passe maintenant à l'enseignement et notamment au lycée. Pour des conditions d'études de qualité, vous souhaitez investir massivement, tout d'abord dans la rénovation et également dans les équipements des lycées. C'est quoi pour vous le lycée de demain ?
Oui, la région doit être exemplaire. Nous promouvons un grand plan de rénovation thermique pour les habitants, mais également pour les équipements dont la région a la charge, dont les lycées, vous le savez très bien. Le lycée de demain, c'est un lycée apaisé, un lycée où il y a des moyens humains pour veiller à la sécurité, au bien vivre ensemble. On va arrêter de tailler dans les effectifs humains et soutenir les projets pédagogiques en collaboration avec l'éducation nationale. Le lycée de demain, c'est un lycée où on a aussi une capacité de bien se nourrir, avec, pour ceux qui le souhaitent, des alternatives végétariennes quotidiennes, avec une restauration locale et bio le plus possible. Nous tendons vers 100% à l'issue du mandat en restauration locale et bio. C'est également un lycée où l'on va pouvoir combattre les inégalités, où l'on va pouvoir proposer des partenariats culturels, puisqu'on va parler de la culture, j'imagine.
Oui.
Et tout cela, la région peut le favoriser.
Alors, en matière de formation professionnelle, justement, vous désirez renforcer l'offre de formation au métier de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire...
Oui, bien sûr, à un moment, c'est vrai que la région doit proposer une orientation, une réorientation peut-être de ses moyens et notamment de la formation qu'elle propose. On ne peut pas en même temps soutenir une économie du passé, la mettre sous perfusion et continuer à ne pas adapter les formations et dire on va développer les énergies nouvelles, l'économie sociale et solidaire. Si les formations n'existent pas, la transition ne se fera pas. Il est crucial d'accompagner ce changement et la carte des formations est très très importante à ce titre.
Alors on poursuit avec le développement économique, on continue même. Hein. Vous souhaitez mettre en œuvre un pacte vert pour l'emploi. Alors c'est quoi un pacte vert pour l'emploi ?
Alors la région, elle est chef de file pour le climat. S'adapter au changement climatique, limiter le changement climatique, protéger la nature, faire la transition énergétique, rénover les bâtiments, développer les énergies nouvelles, développer une économie de la réparation, de la fonctionnalité, développer les circuits courts, tout cela est très porteur d'emploi. On ne peut pas opposer aujourd'hui l'écologie et l'emploi, car l'écologie, ce sont réellement les emplois de demain. Ce que nous proposons, c'est de travailler en partenariat, évidemment, avec les acteurs économiques. Vous savez, les acteurs économiques, ils sont souples, ils ont l'habitude de s'adapter au marché. Et la région, en les accompagnant, doit les guider vers, justement, une réorientation de leur filière, vers tout ce qui permettra, justement, de répondre à nos objectifs climatiques, entre autres, et d'avoir une économie qui soit vertueuse. C'est pour cela que nous proposons, notamment, d'avoir à chaque fois des conditionnalités et environnementales et sociales à toutes les aides qui seront apportées par la région.
Alors vous parlez de social, vous souhaitez expérimenter un revenu de transition écologique.
Oui, tout à fait. Les départements peuvent le faire et les régions également peuvent mener des expérimentations dans ce sens. On voit le succès de ces expérimentations qui permettent justement de développer une autonomie et parfois, vous savez, aujourd'hui on ne sait pas de quoi sera fait demain et on devra tout au long de notre vie se réorienter, changer de carrière, changer de vie. Et ce revenu permet d'accompagner ces changements privés et professionnels en assurant cette soupape et en l'ouvrant également évidemment aux jeunes qui aujourd'hui, on l'a dit, sont un peu les laissés pour compte de l'accompagnement social à ce titre, n'ayant pas, par exemple, le bénéfice du revenu de solidarité active.
Alors, concernant les entreprises, hein, vous en parliez il y a deux minutes, vous souhaitez conditionner également les aides de la région. Alors, ce sera quoi la base des critères ?
Alors, c'est un bilan carbone de l'entreprise et de tendre vers tout ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, mais également d'avoir un mieux-disant social, d'avoir l'égalité homme-femme, de développer des plans de formation, de développer un plan de déplacement aussi de ses salariés qui aillent dans le sens de la transition écologique. Donc, vous voyez, tout ça, ça s'accompagne. Vous voyez, on ne peut pas dire « on vous aide, débrouillez-vous ». Non, la région doit vraiment être un acteur qui accompagne le monde économique aujourd'hui.
Alors vous êtes opposé à l'installation du géant du e-commerce dans la région, hein, près de Rouen, à Petite Couronne. Vous êtes opposé notamment à l'arrivée d'Amazon.
Oui, aujourd'hui, vous voyez, avec le confinement, tout le monde a parlé des circuits courts, des petits commerces. On voit un gros engouement aujourd'hui pour les villes moyennes que nous avons dans l'heure, pour les villages. L'immobilier, vous voyez, est florissant. Et on a un désir de vivre dans ces centres-bourgs, dans ces centres-villes et d'y avoir une vie économique aussi active. Et pour cela, on ne peut pas, vous voyez, à la fois soutenir le petit commerce de proximité, ce que nous ferons, et laisser s'installer ces géants qui vont stériliser complètement l'emploi local et puis on sait très bien que les emplois créés en détruisent 6 par ailleurs. Donc vous voyez, à un moment il faut de la cohérence et c'est ce que nous proposons.
Alors en matière de santé, vous prévoyez de lutter contre les déserts médicaux. Alors on entend ça depuis quelques années hein, déjà au municipal de l'année dernière, c'était un thème fort. Par quels moyens, sachant que les compétences de la région sont quand même limitées en la matière ? Comment on peut développer justement et endiguer ces déserts médicaux ?
Bien entendu, il faudra travailler en partenariat avec les autres collectivités pour mettre en place des mesures qui vont inciter les professionnels qui se forment en Normandie à y rester pour y exercer. Aujourd'hui, il est dramatique de ne pas pouvoir se soigner. On est dans une région où on a énormément de cancers, de pathologies liées à l'environnement. Donc il y a le premier volet qui est de prévenir, d'avoir une politique de santé environnementale. Et puis ensuite, d'accompagner, nous dans l'heure, nous sommes au niveau des territoires d'outre-mer pour la désertification médicale. Et ça n'est plus supportable.
Alors comment on fait justement pour dire à des médecins, restez, parce qu'il y a des écoles, de médecine à Rouen. Comment on fait pour développer la médecine rurale, entre guillemets ?
Oui, c'est le soutien aux maisons de santé, c'est le salariat des médecins. On sait que certaines régions, je crois que c'est la région centre, s'est engagée dans cette mesure d'accompagnement par le salariat. Donc, vous voyez, les collectivités, en se mettant là-dessus, en synergie, peuvent inciter les professionnels à rester en les salariant, en développant la maison de santé avec tous les équipements qui vont bien, le secrétariat qui souvent sont des freins à l'installation, à la campagne. On peut se sentir isolé, débordé, c'est compliqué pour concilier la vie de famille, la vie culturelle avec la vie professionnelle. Or, ici aussi, il y a une qualité de vie à trouver dans nos villages à condition d'être accompagné et de pouvoir exercer dans le plein respect qui est celui qui est donné en ville. À la campagne aussi, on doit pouvoir trouver toutes les facilités pour exercer.
Alors, est-ce que la Normandie est quand même très touristique ? Est-ce que vous avez dans votre programme des idées pour développer encore plus le tourisme ?
Ah mais oui, mais énormément. Nous promouvons aujourd'hui un tourisme qui est plébiscité par la population. Moi, je le vois dans mon village en bord de Seine, c'est le tourisme de plein air, le tourisme vert. On voit l'engouement pour les sites d'escalade, de loisirs d'eau, que ce soit le kayak ou la voile. Tout cela se développe énormément. La randonnée, la Seine à vélo ici promet d'être un véritable succès. Tout cela, c'est encore une fois des choix. Nous promouvons ce tourisme durable, ce tourisme local qui va faire vivre les terrasses de nos petits villages, les commerces de bouche, tous ces touristes qui viennent rechercher de l'authenticité, du vert, vont faire vivre également nos villes et nos villages. Et nous nous opposons en revanche à ces projets gigantesques un peu d'un autre temps. Aujourd'hui, on les a vus souffrir effectivement de la pandémie, mais ces grands centres d'attraction à thème sont-ils encore un modèle désirable aujourd'hui ? Quand on voit le projet un peu fou de Disneyland, le Puy du Fou du débarquement d'Hervé Morin, nous sommes permis de critiquer ce projet car il stérilise toute la vie locale, toutes les petites associations formidables qui font vivre dans les musées des lieux authentiques avec des documentations, des témoignages qu'on ne retrouvera pas dans un parc à sensations sur un thème, il est vrai, un peu indécent.
Alors, on termine avec les compétences tourisme, sport et culture. Est-ce que ce sont des domaines qui peuvent être liés à tout ce à l'écologie, par exemple la culture, le sport? Est-ce que ça peut être lié à la politique écologique?
Mais complètement. On dit le sport, c'est la santé. C'est vrai, vous savez, une des principales causes de cancer, notamment, c'est la sédentarité. Donc le sport, nous le promouvons, le sport santé, le soutien à tous ces petits clubs qui sont une richesse formidable, encore une fois, pour nos territoires. Ces milliers de bénévoles qui font vivre tous ces clubs de loisirs, de proximité, de sport. Voilà, on n'est pas forcément dans l'esprit compétition et Jeux Olympiques, mais on est dans le sport du quotidien. Et là-dessus, bien entendu, c'est très compatible avec l'écologie. Logique de promouvoir le sport santé, le sport sur ordonnance, c'est très bien. Il faut effectivement avoir une qualité de vie moins sédentaire et tous les déplacements actifs, tout ce qui se fait à vélo, la marche à pied, la randonnée, tout ça c'est formidable, c'est simple. Aller faire du bateau dans toutes les rivières de l'Eure, c'est formidable, très agréable et il y a plein de clubs qui font vivre cela et c'est formidable. Et pour la culture de même. Le mot culture, vous savez, il a deux sens. Il y a la culture de la terre et puis il y a la culture de l'esprit, la culture du paysage et s'inscrire dans un territoire par une culture vivante. Ça, c'est très important aussi d'avoir tout ce tissu parce qu'il y a aussi des associations culturelles. Moi, dans mon village, j'ai une association qui fait pratiquer la musique aux enfants. c'est formidable. Nous avons des théâtres dans des petites villes qui proposent un travail avec les collèges, les écoles, les lycées, et tout cela est très utile. Bien sûr, il faut s'ouvrir, se cultiver, et beaucoup de spectacles ont pour thème l'écologie, et l'écologie est tout à fait aujourd'hui au cœur du débat et des politiques culturelles, j'en suis persuadée.
Laetitia Sanchez, merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais je vous en prie, c'est agréable.
Cette émission sera rediffusée à 13h et 19h. Demain, 7h30, nous recevrons François Ozillot, candidat tête de liste dans l'Eure de Normandie, Terre d'Avenir. Excellente journée à l'écoute de BPM.